Thank you. vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, hein, c'est la radio de la Fédération anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et c'est Jeudi Noir donc qui commence avec ce soir un certain nombre d'animateurs et on pourrait même dire un invité. Donc José au platine, comme d'habitude, qui nous a trouvé un morceau de Charlie Parker qui s'intitule Anthropology. Donc voilà. Et puis en face de moi, donc, il y a Jean Mathias. À côté de moi, il y a Pierre-Yves qui va nous présenter un livre. Et puis moi, c'est Michel. Et voilà la blague. Non, ils ont des noms à coucher dehors, ces mecs, c'est pas possible. Alors, Pierre-Yves va nous présenter un livre d'Alain Testard, édité chez Gallimard. Une fois, on fait dans la grosse édition. Et c'est un livre d'Alain Testard qui s'intitule Avant l'histoire, l'évolution des sociétés de Lascaux à Carnac. Alain Testard est mort il y a quelques années. Il était directeur de recherche émérite en anthropologie sociale au CNRS, membre aussi du laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France. Et il a publié pas mal d'ouvrages. Et alors, pour présenter les choses un petit peu rapidement, c'est un livre qui essaye de redonner ses lettres de noblesse à une théorie qu'on a pu appeler l'évolutionnisme, et qui a été très très en vogue fin 19e, début 20e. Et c'est une théorie qui est assez intéressante, et qui, dans la mesure où elle essaie de dégager des lois de l'évolution des formations sociales et politiques, souvent à partir d'éléments techniques dont on peut disposer. Alors, ça a été souvent caricaturé, souvent aussi énormément contesté depuis au moins Lévi-Strauss, à ma connaissance. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez des gens qui vont vous dire, voilà, avec tel, si on a, mettons, voilà, on peut pas avoir d'État ou de ville si on n'a pas une sédentarisation qui est produite par l'arrêt de la chasse et de la cueillette, et l'invention de l'agriculture et de l'élevage. Donc en gros, si vous avez une société, mettons, de chasseurs-cueilleurs, ils n'auront pas d'État, ils n'auront pas de ville, et s'ils commencent à s'installer, là ils vont développer une ville, ils vont développer un État, ils auront du surplus, donc il y aura du commerce, etc., etc. Et en fait, au début ça semblait très 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 intéressant comme théorie, mais plus les recherches ont avancé, plus on s'est aperçu que ce type de schéma un peu simpliste ne fonctionnait pas. Alors qu'est-ce qui nous reste après? Est-ce qu'on peut reformuler un évolutionnisme intéressant? Ou est-ce qu'il faut s'en remettre à l'aléatoire? Alors Pierre-Yves, je te laisse la parole.
Donc ce que Testard essaie de faire, c'est précisément donc de reformuler cet évolutionnisme. Donc malgré justement les critiques qu'on pouvait lui faire, alors je crois qu'il y a un argument qu'il faut prendre en compte, c'est que si on n'est pas évolutionniste, est-ce qu'on est fixiste? Et on ne peut pas dire que les sociétés ont jamais évolué au cours de l'histoire humaine. Donc, en un sens, effectivement, être évolutionniste, c'est quelque chose qui n'a pas marché au XIXe siècle, au sens où les évolutionnistes du XIXe siècle n'ont pas été convaincants. Mais ne pas être évolutionniste, c'est aussi quelque chose qui pose un petit problème.
C'est-à-dire que oui, il faut bien expliquer que les sociétés étaient évoluées. Ensuite, comment est-ce qu'on explique cette évolution?
Voilà. Et donc, comment expliquer cette évolution?
C'est ce qu'il essaie de faire Testard, donc.
Oui, c'est ce qu'il essaie de faire. Dans son bouquin, il commence par expliquer longuement, justement, quelle méthode il faut suivre pour justement expliquer une évolution de manière convaincante, quoi. Parce que ce qui lui semble être le problème principal dans cette affaire de l'évolutionnisme, c'est que t'as affaire à des sociétés qui sont toujours modernes, aujourd'hui on ne connaît que des formes d'organisation, d'aujourd'hui justement, et tu dois remonter à partir de ces sociétés modernes à une époque pour lesquelles on n'a à peu près aucune trace, on n'a à peu près rien. Tu dois remonter, donc lui son but c'est d'expliquer l'évolution des sociétés, donc non pas à travers toute l'histoire, mais entre, donc le sous-titre du livre dit, Lascaux et Carnac, c'est-à-dire entre moins 17 000 et environ moins 3 000. L'évolution des sociétés à ces deux périodes qui sont appelées le paléolithique supérieur et puis le néolithique, très très ancienne. Et les sociétés, on ne peut pas les connaître directement, il n'y a pas de connaissance directe de société, donc il faut partir d'autre chose, Coffin.
Et tout ce qui nous reste, c'est des traces, des monuments.
Des traces archéologiques, mais lui, justement, ce qu'il pense, c'est qu'à partir d'une trace archéologique, tu ne vas pas reconstituer une formation sociale. Tu as une place, est-ce que c'est le signe d'une démocratie, comme une agora athénienne, ou est-ce que ce n'est pas plutôt quelque chose qui a été exporté à travers tout l'Empire romain, justement par un empire. Voilà. Les restes de places sont absolument identiques. Et tu as des sociétés complètement différentes. Donc tu ne peux pas directement conclure d'une organisation sociale à partir des traces archéologiques. Donc comment faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour raisonner de cette manière?
Alors il y a eu un truc rigolo, c'est que j'ai pas dit, c'est que quand les chrétiens ont rencontré des soi-disant primitifs, ils se sont dit chouette, on peut voir notre passé. Et ça a duré, c'est plus ou moins une idée qui a duré jusqu'au 19e siècle.
Ça dure pas encore aujourd'hui, non?
Plus ou moins, si, sans doute, Jean-Mathias, t'as sans doute raison. Mais malgré tout, chez les savants, c'est plus quelque chose qui va se dire comme ça, alors qu'avant c'était partagé aussi dans le monde savant comme idée.
Ouais, ça c'est le deuxième problème de l'évolutionnisme finalement. Il y a le premier problème qui est comment est-ce qu'on peut penser le passé à partir du présent, et puis ce deuxième qui est est-ce que en jugeant que le présent est un signe du passé, on n'est pas en train de dire que les gens du présent sont des primitifs. Voilà, des primitifs, donc des gens qui ont donc une valeur inférieure, enfin parce que venant du passé. Enfin voilà. Alors on y va les deux. D'abord la question de comment raisonner, enfin voilà, et puis ensuite donc comment raisonner. Le raisonnement évolutionniste type, donc justement, ça consiste à dire, il y a deux phénomènes contemporains, et il y en a un qui est la trace d'un phénomène plus ancien, contrairement à l'autre. Voilà. Et le premier raisonnement, ça date du 18e siècle, par un type qui s'appelait Jussieu, et voilà, il y avait, on connaissait des trucs qu'on appelait des pierres de foudre, et il y avait un grand débat depuis le 16e siècle, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est la foudre qui a transformé la pierre qui lui a donné cette forme, ou bien est-ce que c'est un artefact humain, un truc qui a été fait par les hommes? Et je me suis dit, ces pierres de foudre, elles ressemblent au tomahawk des Indiens d'Amérique. Donc, on peut considérer, étant donné que ils n'avaient pas... on peut considérer que les pierres de foudre sont les ancêtres des tomahawks, et qu'il y a une quelque chose qui reste identique finalement entre les haches antiques et les tomahawks.
Et les pierres de foudre, en fait, c'était quoi? C'était des pierres taillées?
Ça, c'est que c'était des haches, des pierres peut-être plus anciennes. Je sais pas exactement. Testar a oublié de l'indiquer. Je me suis pas renseigné par ailleurs. La première étape d'un raisonnement évolutionniste qui tient debout, c'est d'essayer de trouver une homologie, on dit, entre le présent et le passé. Mais c'était fait n'importe comment au 19e.
Tu as essayé de retrouver des ressemblances significatives entre un phénomène qu'on peut observer présentement et puis un artefact dont on sait qu'il est très, très ancien. D'accord. Et à partir de là, on peut se dire, peut-être comme pour le tomahawk et pour la pierre de foudre.
On va pouvoir faire pareil pour les organisations sociales. Mais ce que dit Testar, c'est que les gens sont allés trop vite et n'ont pas assez critiqué, n'ont pas assez distingué ce qui, dans les sociétés qu'on connaît aujourd'hui, était ancien et était nouveau. Donc il donne un exemple qui est assez intéressant, qui est celui des chasseurs-cueilleurs pygmées, qu'on trouve notamment en Afrique, mais dans d'autres continents aussi. Donc ils appellent des chasseurs-cueilleurs enclavés. Parce que c'est des gens, ils vivent dans les forêts. C'est quoi leur moyen de vie? C'est notamment le commerce avec les agriculteurs autour. Ils chassent et ils échangent leur produit de leur chasse contre des céréales. Et d'autre part, une de leurs caractéristiques, c'est qu'ils savent se sauver à toute vitesse. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas seulement en relation commerciale avec les agriculteurs autour, mais ils sont opprimés par les agriculteurs autour.
Donc ils ont des relations guerrières et commerciales.
Guerrières, ils sont pas, c'est pas de très bons guerriers, donc c'est la fuite leur truc. Et donc ça, c'est des choses qui sont adaptées au monde historique dans lequel ils vivent, adaptées à leur présent et à un monde agricole notamment. Donc si on s'interroge sur la vie des hommes avant l'invention de l'agriculture, on ne peut pas prendre ça en compte. Par contre, ces gens-là aussi sont forcément mobiles. Et ça, dit Testar, c'est donc le nomadisme, c'est quelque chose qui est indépendant des conditions historiques, parce que c'est lié aux besoins. T'es obligé, quand tu tires ta subsistance de la chasse et de la cueillette, parce que c'est un chasseur-cueilleur, c'est quelqu'un qui, parce qu'il n'est pas agriculteur, est obligé de tuer des animaux et de ramasser des plantes qu'il ne cultive pas. Donc, tu dois te déplacer parce que les plantes disparaissent autour de toi, les animaux fuient ta présence, donc été forcé à être mobile. Et donc ça, c'est une caractéristique donc, que possèdent les pygmées et que possèdent tous chasseurs-cueilleurs, y compris ceux de la préhistoire. Donc là, on tient quelque chose de solide qu'on peut
exporter
et attribuer aux chasseurs-cueilleurs de la préhistoire ou aux premiers hommes.
Donc quand on est chasseur-cueilleur, on est nomade.
Ouais. Alors,
Non. C'est pas si simple.
En général, quand on est chasseur-cueilleur, on est nomade. Mais il y a deux autres cas qui font qu'on peut être chasseur-cueilleur sans être nomade. Le premier cas, c'est que...
C'est des mecs qui chassent des tortues. Comme elles se déplacent pas vite, ils peuvent rester sur place.
Alors, ouais, c'est à peu près ça. T'as toujours à manger, donc il faut que ce soit dans un lieu où il n'y a pas... t'es nourri toute l'année, il y a une manne qui tombe. Donc il y a des conditions tellement favorables que tu peux t'installer tranquillement et puis te nourrir.
La pêche, par exemple,
non ? La pêche, c'est pas suffisant.
C'est pas suffisant.
En général, sauf dans certains cas, mais il faut le stockage en plus. Il faut pouvoir stocker la pêche plus le séchage des poissons. Mmh. Et là, tu tiens les saisons creuses, parce que la pêche, il y a aussi des courants de pêche, etc. Tu tiens les saisons creuses sans avoir de problème.
D'accord.
Voilà. Donc les chasseurs-cueilleurs sont pas toujours nomades, mais s'ils savent pas stocker et s'ils ont pas des conditions courantes, alors ils vont être obligés de bouger. Donc la loi est un peu plus complexe que celle qu'il indiquait à cet endroit-là. Donc la première chose pour penser l'évolution, c'est d'essayer de bien regarder comment fonctionne la société pour essayer de voir ce qu'on peut affirmer en toute généralité, indépendamment des conditions historiques précises dans lesquelles les sociétés actuelles vivent. Et le deuxième truc, c'est d'essayer de trouver un ordre.
Donc, dans l'évolution.
Un ordre dans l'évolution, dire ça arrive toujours avant. Et il y en a un qui est clair, c'est on est toujours... chasseur avant d'être agriculteur, l'humanité n'a pas commencé par être cultivatrice.
Vous pouvez trouver des ordres, c'est le plus compliqué finalement, peut-être. Enfin, non, les deux sont très compliqués, mais les deux opérations sont assez complexes.
Les deux opérations sont assez complexes.
Parce que tu vois, après, ça a pu donner des choses un petit peu absurdes dans l'évolutionnisme, ou du moins trop dogmatique peut-être.
Oui, alors ça, c'est la difficulté, c'est ce qu'il essaie de ne pas faire finalement. Enfin, il y avait souvent des assimilations qui disaient, il n'y a pas. Typiquement, le cas dont on a discuté tout à l'heure, est-ce que être chasseur-cueilleur, c'est toujours être nomade? Ça demande justement une connaissance ethnologique complète de tous les chasseurs-cueilleurs d'aujourd'hui pour se rendre compte que dans les faits, il n'y a pas que des chasseurs-cueilleurs nomades, il y a aussi des chasseurs-cueilleurs sédentaires. Des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire qui ont une maison autour de laquelle ils vivent, qui ne sont pas en déplacement, qui ne tirent pas leur maison autour d'eux, ou ne la reconstruisent pas autour d'eux.
Oui, leur maison n'est pas mobile.
Voilà, oui. Ou alors renouvelée à chaque fois. Donc ça, c'est le problème logique, finalement. On peut quand même penser des ordres, assez complexes, ce que je dirais tout à l'heure, comment il arrive à des trucs, assez subtils, pas évidents, et pas seulement on commence par chasser avant d'être agriculteur, Voilà. Et l'autre truc, c'est, donc tu disais, par rapport, est-ce qu'on n'est pas en train de traiter de primitif, finalement, par exemple, c'est pygmées, parce qu'ils ont des modes de vie différents. Et là, c'est d'autant plus intéressant, cette question que tu posais, que c'est vraiment l'attaque fondamentale qui a été lancée, je crois, contre l'évolutionnisme, notamment par Lévi-Strauss dans Race et Histoire.
Il y avait aussi un problème, justement, au niveau de l'ordre que lançait Lévi-Strauss, c'était sur la hiérarchie. Implicite dans tout évolutionnisme, allait dire pour fixer une évolution. Alors évolution, c'est un terme très très vague, donc c'est ça qui est compliqué. Mais pour fixer une évolution, globalement, il faut avoir l'idée d'une fin. Et très très souvent, la fin, le but, c'est nous. Ce qui fait qu'on peut évoluer, on peut voir les populations présentes, mais c'est notre passé. Donc d'où on va les traiter de primitifs en disant mais ils n'ont pas encore atteint le stade qui est le nôtre, et donc éventuellement on peut les aider à l'atteindre plus rapidement. Le problème, ce que disait Lévi-Strauss dans Race et Histoire, c'est que suivant la norme que tu fixes, tu vas avoir des hiérarchies totalement différentes. C'est-à-dire que par exemple, je ne sais pas moi, si on prend les aborigènes australiens, ce que disait Lévi-Strauss, c'était qu'ils avaient un système matrimonial d'une complexité totalement folle. Qui visait à éviter l'inceste tel qu'il le concevait de la façon la plus radicale possible, et que du point de vue de l'évolution, de l'exogamie, c'est-à-dire du fait qu'on se marie à l'extérieur de son groupe social, ils avaient atteint un état quasiment parfait. Qui est bien plus parfait que le nôtre, mettons. Donc c'est ça qu'il est posé comme problème, Lévi-Strauss, dans Race et Histoire.
Donc à ce problème, je crois qu'il y a deux réponses que fait Testard. La première, c'est que il ne pose pas une fin, il dit, ben voilà, y a un état actuel, enfin, connu entre le 16e et le 20e siècle, et justement, il n'est pas unique. Il n'est pas unique, il y a les aborigènes, il y a les Indiens d'Amérique, il y a les Bushmen ou les Sen d'Afrique du Sud, il y a les Occidentaux, il y a tout un tas de peuples différents, donc il y a une pluralité des fins, enfin des fins, justement, pas des objectifs, mais en tout cas des points d'arrivée, quoi, qui fait qu'il n'y a pas de raison d'en sélectionner un comme étant supérieur aux autres. Mais le fond, surtout, de son... pas de sa critique, en tout cas, mais de la manière qu'il a d'échapper à cette critique, c'est de dire, attention, je ne suis pas en train de parler des peuples, je ne suis pas en train de parler des cultures, je suis en train de parler des sociétés, c'est-à-dire des institutions et des formes d'organisation sociale. Et l'exemple qu'il donne, c'est... Enfin, il donne plusieurs exemples. Il dit, voilà, entre les Français et les Anglais, il y a une culture complètement différente. On va faire bouillir le bœuf de cette manière ou on va le griller de cette manière.
N'empêche, c'est connu.
C'est exactement. Voilà. N'empêche que si on prend la 4ème République française et l'Angleterre, on a les mêmes institutions politiques et on a les mêmes institutions économiques qui sont le capitalisme. Donc on a des formes de société identiques avec les Anglais malgré des différences culturelles. Et inversement, si tu prends la révolution d'octobre 17, il y a une culture qui est identique en Russie avec une forme d'organisation sociale différente. Donc lui, ce qu'il dit, c'est qu'il n'est pas en train de hiérarchiser en valeur les peuples, il est en train d'examiner la manière dont, dans l'histoire, les formes d'organisation sociale se succèdent. Il est en train de se dire, voilà, comment on s'organise à tel moment, comment on s'organise à tel moment, et ce qu'il ajoute, c'est qu'on peut établir un ordre, et on peut reconnaître comment cet ordre, comment ça se passe dans les faits.
Donc oui, on peut en gros établir des schémas évolutifs qui sont pas forcément hiérarchisés.
Voilà, sans juger que...
Sans juger que telle société est au-dessus d'une autre ou en dessous. Ouais, même s'il est évident que les Anglais nous sont considérablement inférieurs. On va peut-être faire une pause. Donc voilà, pause musicale. Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui se poursuit avec Jean-Mathias qui râle devant moi.
Mais même les relances, vas-y.
Même les relances. Qu'est-ce qu'elles ont, même les relances? Donc voilà, Jean-Mathias qui n'est pas intervenu du tout de la première partie, fait son mauvais esprit et voilà, enfin, on va le contraindre à l'autocritique après l'émission. Vous allez voir ce que vous allez voir.
Et donc, rien du tout.
Et donc toujours je faisais la technique. Vous venez d'entendre un morceau qui s'intitule du groupe ou d'un personnage qui s'appelle Cro-Magnon, First World of Bronze. Un groupe, donc c'est un morceau de 1969. Et donc Pierre-Yves,
ça excuse rien, vous avez remarqué.
Et donc Pierre va continuer de nous parler d'un livre d'Alain Testard qui s'intitule Avant l'histoire, l'évolution des sociétés de Lascaux à Carnac. Et donc il va continuer de nous présenter l'espèce de théorie, enfin la théorie que propose Alain Testard d'une afin de rendre compte de l'évolution des sociétés humaines sans forcément les hiérarchiser selon des valeurs politiques ou actuelles. Voilà, donc à toi Jean-Pierre-Yves.
Voilà, donc si les sociétés préhistoriques ont évolué, ont changé, la question que pose Testard donc, dans la majeure partie de son livre, c'était quelles étaient ces sociétés et puis comment elles ont changé. Voilà. Donc ce qu'on sait...
Comment est-ce qu'on peut le savoir?
Ouais, je vais essayer justement d'indiquer aussi comment il résonne, parce que c'est ce qui fait que son livre est vraiment passionnant. Donc comment on peut savoir qu'ils ont évolué? Donc ce qu'on peut savoir c'est qu'au début, on commence par la chasse et la cueillette, et pas par l'agriculture. Voilà. Donc ça, c'est le truc qu'on sait. Mais ensuite, la question, c'est comment ça se passe. Et comment ça se passe, donc notamment à partir du moment où l'homme est comme nous, où c'est l'homme moderne, l'homo sapiens sapiens, donc moins 40 000. Alors, pour faire ça, donc justement, ces raisonnements se font toujours en deux temps. Ils commencent déjà toujours par repérer les types de sociétés possibles. C'est avec les types de sociétés possibles de chasseurs-cueilleurs. Il va faire une liste des types de sociétés possibles de chasseurs-cueilleurs. Et puis ensuite, ils se demandent, quels sont les faits archéologiques qu'on possède qui nous permettent de choisir entre telle ou telle société. Donc, le chapitre le plus intéressant donc s'appelle le paléolithique ou les deux problèmes du comparatisme et donc le premier problème c'est donc justement que tous les chasseurs-cueilleurs sont pas comme ceux qu'imaginent ou qu'ont imaginé dans le passé spontanément les préhistoriens. On imagine toujours justement la guerre du feu, des nomades pauvres
au bord de la survie,
qui n'ont pas de richesse, qui sont au bord de la survie et qui se promènent comme ça. Mais tous les chasseurs-cueilleurs ne sont pas comme ça, on en a déjà parlé tout à l'heure. Et il y en a notamment qui, tout simplement, ne sont pas nomades, qui sont riches, qui ont de nombreux esclaves, et qui utilisent leurs richesses les riches dépensent leurs richesses pour montrer leur grandeur et leur puissance, donc dans des potlatches, c'est ça le nom des ethnologues courants, donc soit à l'occasion d'une mort, soit à l'occasion d'une grande fête. Et par exemple, on va lever un mégalithe, lever un totem. Donc ça, c'est ce qu'on trouve notamment, dit Testard, chez les Indiens de la côte nord-ouest des États-Unis. Donc pas des États-Unis, de l'Amérique du Nord, parce que ça se poursuit au Canada jusqu'en Alaska. Des peuples qui sont chasseurs-cueilleurs, mais qui justement ne se déplacent pas. Pourquoi ? Parce que justement, ils possèdent le stockage. Ils mangent des poissons et ils font sécher les poissons et ils les stockent. Donc ils ont une capacité technique particulière, mais ils ont aussi une économie fondée justement sur ce stockage. Donc ça veut dire qu'ils n'ont plus besoin de se déplacer. Ça veut dire aussi qu'ils sont plus nombreux. Les chasseurs-cueilleurs nomades, ils sont en petit groupe, parce que dès que la nourriture vient à manquer, on se sépare. Voilà. Alors que là, on peut être en plus gros groupe. Pourquoi ? Parce qu'aussi on répartit sur l'année. Les chasseurs-cueilleurs, il faut qu'ils soient le nombre qui permet de manger au pire mois de l'année. Voilà. Eux, les pires mois de l'année, on a conservé pour les pires mois de l'année ce qu'on a récupéré les autres mois. On peut être plus nombreux. Donc ils sont sédentaires, ils sont plus nombreux, et surtout il y a des riches et des pauvres. Pourquoi
Oui, parce que très souvent, on se représente les chasseurs-cueilleurs comme des sociétés égalitaristes, dans lesquelles il y aurait très très peu d'inégalités socio-économiques et politiques de ce fait. Et ce que montre Testard, c'est que il y a aussi des sociétés de chasseurs-cueilleurs inégalitaires,
d'un point de vue économique et donc politique. En conséquence, d'un point de vue politique, parce que justement, du moment où il y a des gens qui sont extrêmement riches, ils ont la possibilité d'acheter des gens, de faire travailler les gens, Donc ce qui fait que, dans ces situations-là, du moment qu'il y a des biens qu'on peut stocker, les aléas de la vie vont faire qu'il y en a qui pourront en stocker plus, éventuellement parce qu'ils sont plus malins, mais aussi parce qu'ils ont plus d'opportunités, parce que ça s'est mieux passé pour eux dans la vie. Ils vont approprier des réserves, et donc qu'est-ce qu'ils vont faire de ces réserves? Ils vont pas pouvoir s'acheter un yacht, alors ils vont le dépenser faire un mégalithe ou quelque chose comme ça. Donc il existe donc des chasseurs-cueilleurs qui sont pas ceux qu'on imagine tout le temps, soit ces sociétés nomades sans richesse, dans lesquels les rapports sont des rapports entre personnes. Si on veut quelque chose de quelqu'un, on doit lui rendre service. Si je veux me marier avec ta fille, eh ben, je vais me mettre à ton service. Voilà, c'est ce qu'on appelle ce qu'il appelle le service pour la fiancée. Donc il y a deux types de sociétés de chasseurs-cueilleurs, ceux qu'il appelle les sédentaires stockeurs, et qui ont un mode d'organisation sociale finalement identique à des agriculteurs, identique à des horticulteurs, à ceux qui ont des petits jardins. Donc il y a pas d'opposition de ce point de vue-là entre chasseurs-cueilleurs et agriculteurs. Et il y a au contraire opposition entre les chasseurs-cueilleurs sédentaires-stockeurs et les chasseurs-cueilleurs nomades, pour lesquels la richesse joue aucun rôle.
C'est-à-dire que le mode de production des biens n'est pas nécessairement lié à une forme d'organisation, sociale, écologique.
Il y a des décrochages, il n'y a pas un rapport automatique entre l'économie et le...
D'accord. Donc là, c'est un marxisme vulgaire qui est un peu visé, peut-être.
Alors, il ne le vise pas explicitement à ce moment-là, parce que je crois que ce marxisme vulgaire est omniprésent dans toute la pensée du 19e siècle, avec toujours l'idée justement d'un déterminisme fort entre un phénomène qu'on va considérer comme la clé et puis auquel on va s'accrocher pour y réduire tout le reste.
Puis avant ça, t'as la matrice positiviste, quoi. C'est-à-dire l'idée effectivement que les sociétés humaines suivent des étapes de développement qui sont toujours les mêmes et qui vont vers à la fois un progrès vers l'âge positif, progrès des connaissances, etc. Donc avec des étapes homogène, et puis une orientation globale. Effectivement, ce qui est intéressant dans tout ce que tu racontes là, c'est que il garde un modèle d'évolution, mais en même temps, il te fait péter tous les l'homogénéité des stades présupposés par une bonne partie effectivement de l'ethnographie du 19e dans ses versions marxistes, mais pas seulement. Qu'effectivement, c'est l'ensemble de la discipline ethnologique qui se constitue d'abord sur ces cadres-là positivistes, quoi. Effectivement, on a l'impression de sortir de ça complètement à écouter ce que tu dis.
Oui, c'est-à-dire que l'évolution, c'est pas quelque chose que je peux comprendre seulement en raisonnant, mais c'est le résultat d'une énorme enquête. Enquête qui fait casser justement toutes les associations rapides qui avaient été établies.
Il y a l'empirisme aussi, effectivement, de la démarche qui est vraiment revendiquée et puis qui te fait péter, du coup, effectivement, l'approche un peu spéculative à laquelle on est habitué.
Écartant tous les faits, ils n'ont rien à voir avec la question.
Sa question était différente parce qu'elle était normative, lui. Alors que lui, justement, pour but vraiment de décrire. De raconter une histoire,
Mais c'est quand même le but du second discours sur l'origine des inégalités qui dit ça. Avant de recomposer une préhistoire complètement, complètement spéculative pour le coup. Et malgré tout, je pense que ça a beaucoup marqué aussi nos imaginaires, de comprendre le passé. Et c'est intéressant donc que Testard, lui, finalement, il prend ça de front.
Il prend ça de front et essaie de. Et donc il prend ça de front justement de manière. On fait de l'ethnologie et ensuite on va voir justement comment ça se passe d'un point de vue archéologique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui correspond, Et donc le problème, c'est est-ce que on peut les sociétés paléolithiques, elles correspondent à quel type de chasseurs-cueilleurs dans ce cas-là. Et ce qui va dire, c'est que c'est pas les sédentaires stockeurs, mais c'est plutôt les nomades sans richesse. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas de traces d'habitation fixe, parce que les pratiques funéraires ne témoignent pas, contrairement à ce que croient beaucoup d'archéologues, de richesse. C'est de l'ivoire, mais l'ivoire, ça vaut rien à l'époque. On chasse les mammouths toute la journée. On sait plus quoi en faire de l'ivoire. Et par ailleurs, il y a quelque chose de discret, il n'y a pas de stèle à cette époque-là. Donc, ça, c'était le premier problème. Est-ce que c'est des chasseurs-cueilleurs sédentaires ou est-ce que c'est des chasseurs-cueilleurs nomades? Et le deuxième problème, c'est que les chasseurs-cueilleurs nomades, il y en a aussi deux types. Il y a aussi deux types. Alors, ils les appellent le type A et le type B. Les points communs, c'est que c'est des sociétés qui sont assez fluides, flexibles, mobiles. Il y a notamment des groupes affinitaires qui peuvent se constituer, quel qu'ils soient. Mais il y a d'un côté les Australiens et d'autre côté le reste des chasseurs-cueilleurs. Les Australiens ont une société vraiment très bizarre, donc qualifiée de totémique et exogamique.
Alors explique peut-être exogamique.
Alors, exogamique, ça veut dire que il n'y a pas seulement des interdits dans le mariage. Il n'est pas seulement interdit de te marier avec ta sœur ou ta maman, mais il y a des prescriptions, il y a des obligations. si tu es du totem kangourou, tu vas être obligé de te marier avec une fille du totem
koala, mettons.
Koala, voilà.
Et donc, je suis sûr que ce sont les koalas.
T'as pas le choix.
Il reste plus de temps là sur ton.
Ouais.
Ça t'arrive, Michel.
Bon, tant pis.
De mémoire, c'est pas les koalas.
J'affirme donc d'une façon catégorique que ce sont les koalas.
Voilà où on en est, quoi.
On ira vérifier. Et donc, être du totem, c'est quoi? C'est appartenir à une classe sociale fermée. Fermée, non pas par la descendance, parce que justement tu sors par la descendance, mais en tout cas tu nais dans une catégorie, quoi, t'en sors pas de ta vie, et tu te maries avec quelqu'un d'autre catégorie, donc t'es exogame. Voilà.
Après, que donne l'association d'un kangourou et d'un koala?
Allez, alors, mais t'es pas du tout obligé de répondre. Vraiment, je te le dis d'expérience.
Alors, d'un humain catégorisé chez les kangourous, chez les koalas, ce que ça donne, c'est une interdépendance très très forte. Enfin, le fait que t'as pas de liberté dans tes amours, quoi. Enfin, voilà, quand tu nais, on te donne une belle-mère. Et toutes les... Donc, je parle toujours du point de vue du mec, parce que malheureusement, les sociétés d'avant l'histoire sont affreusement sexistes. Et ça continue aussi après l'histoire. Donc, voilà, les femmes sont un peu comparables à des biens, quoi. Enfin, voilà, et la question, c'est comment tu veux obtenir des femmes. Et on t'associe une belle-mère, donc t'as le même âge qu'elle, et toutes les filles de la belle-mère seront tes femmes. Quoi. Enfin, voilà, donc t'as pas le choix, elles n'ont plus, les filles non plus. Enfin, voilà, c'est comme ça, c'est ta vie. Quoi. Enfin, voilà. Alors qu'au contraire, chez les autres chasseurs-cueilleurs, justement, y a une liberté beaucoup plus forte. Quoi. Enfin, voilà. Et en plus, en Australie, t'es asservi à vie à ta belle-mère. Tu chasses, mais tu dois donner le produit.
Il n'y a pas que l'Australie.
Il n'y a pas que l'Australie, mais sauf qu'il n'y a que l'Australie où c'est statutaire, où c'est institué, et où tu n'as aucune possibilité d'y échapper sinon de travers la loi. Voilà, c'est...
on pourrait développer sur ce qu'a dû faire Jean-Mathias pour être libre. Mais bon, ça, il faudrait plusieurs émissions.
Donc, pour pouvoir avoir une femme, donc il faut servir sa belle-mère en Australie toute sa vie, alors qu'ailleurs, il faut se mettre au service de son... Dans les autres, chez eux, chez son employeur, se mettre au service quelques temps. Il n'y a pas de richesse, hein, donc tu te mets au service quelques temps de ta belle-famille, et ensuite, t'es libre, t'as payé, tu peux reprendre ta vie et faire autre chose. Donc, troisième chose, le partage du bien, c'est ta belle-mère qui décide, et pas toi. Donc, ce qui fait qu'en Australie, finalement, les gens ne décident de rien concernant toutes ces questions essentielles de la vie, avec qui je vis, et comment je vis. Quoi, donc, alors qu'au contraire, justement, chez les autres chasseurs-cueilleurs, il y a une beaucoup plus grande fluidité. Donc, deuxième problème, c'était est-ce qu'on peut, au paléolithique supérieur, savoir lesquels... quelle était l'organisation sociale, quoi. Enfin, et sa thèse, alors tu me dis si, point de vue temps, je continue dans cette affaire, oui, peut-être, parce que c'est, je trouve que c'est vraiment le chapitre le plus passionnant, même s'il y a plein d'autres choses qu'il faudra dire. Donc sa thèse, c'est que la structure sociale du paléolithique, elle est semblable à celle des Australiens. C'est-à-dire que c'est des sociétés, donc paléolithiques supérieures, des sociétés donc, où on est dans des groupes dont on ne peut pas sortir, et où il y a des lois partout qui t'empêchent de vivre autrement que selon ces lois. Alors il y a trois arguments: l'art des cavernes, l'évolution technique, et puis la répartition géographique. Donc l'art des cavernes, c'est l'argument le plus bizarre, c'est celui dont il est le plus content. Et tout simplement, on ne reprend que des animaux, des espèces séparées. Il n'y a pas d'hommes, sinon des hommes mi-hommes, mi-animaux dans les grottes. Enfin, l'art pariétal, c'est l'art des cavernes, c'est Lascaux. Et donc, il y a une classification d'espèces séparées qui sont le signe de ce qu'il appelle le totémisme, c'est-à-dire de l'enfermement des humains dans des groupes analogues à des animaux. Donc, le totémisme, pour y penser, il faut penser à la cigale et la fourmi. Il y a la cigale qui est feignante, la fourmi qui est travailleuse. Donc, des rapports entre animaux représentent des rapports entre humains, sauf que le totémisme, c'est des rapports sociaux. Quoi. Enfin,
D'accord, et donc il déduit ça à partir de
Lascaux, Et c'est assez étrange, peut-être qu'il faut s'y connaître mieux en ethnologie.
Non, je pense que non, c'est tout le gros problème de la préhistoire, c'est qu'il y a des carrières entières qui se font sur une seconde molaire trouvée au fin fond d'un désert. Et donc là, par exemple, je sais pas, avec Toumaï, ils ont trouvé un truc qui était à l'ouest du rift africain, et donc ils se sont dit que peut-être que la théorie de Coppens sur le passage du singe à l'humain, aux êtres humains, était fausse. Mais ils ont crâne et une seconde molaire pour se départager. Donc là, je pense que Testard, il est un petit peu dans la même situation qu'eux.
Non, il a un peu mieux, justement.
Il y a plus de grottes peintes.
T'as des grottes peintes entre, donc, justement, justement sur tout le paléolithique. Ouais. Enfin voilà, et en plus c'est pareil. C'est-à-dire que tu as 30 000 ans d'art, donc avec des styles différents, d'accord, effectivement, mais du même, avec des manières de faire différentes, mais qui se ressemblent. Voilà, ouais. Donc il y a une constante. Voilà, et ce qui justifie sa thèse, c'est qu'il dit voilà, quand on reprend quelque chose, c'est une vision du monde. Quand on reprend quelque chose de manière aussi massive, continuelle, sur 30 000 ans. Et donc, c'est une vision du monde, ça comporte. C'est là où je vois pas ce qui justifie son argument. Il dit toute vision du monde exprime une pensée de l'homme. Voilà. Donc. Qu'est-ce qu'on pense de l'homme quand on peint des animaux séparés en espèces, sans représenter des hommes on pense que les hommes, finalement, sont séparés de la même manière. Quoi. Ce serait ça, son argument. Alors, il y en a un deuxième qui est celui de l'évolution technique. Il dit tout simplement, les Australiens, ils évoluent pas techniquement. Au paléolithique, c'est pareil, il y a une évolution très lente, avec on fait trois inventions, justement, en 30 000 ans. Voilà, donc aiguille à chat, propulseur, donc pour renforcer, enfin un bout de bois pour lancer des javelots, quoi. Voilà. Et puis la pointe barbelée qui permet de faire des hameçons ou des voilà. Et donc ça c'est une analogie. Et il dit c'est très simple cette analogie technique parce que ces sociétés, ça, personne n'a d'intérêt à inventer quoi que ce soit dans la société. Pas les opprimés parce que de toute façon c'est pas pour eux le produit de leur travail. Et pas les oppresseurs parce que de toute façon ils ont plein d'opprimés autour d'eux, ils ont aucun besoin de faire bosser plus les opprimés. Voilà. Alors contrairement au capitalisme où justement il faut produire à fond, des nouvelles inventions techniques pour faire du profit. Quoi. Donc ça c'est l'argument.
C'est-à-dire que c'est un état social qui fait main à frein à la technologie.
Ouais.
Et c'est quelque chose qu'on peut observer chez les aborigènes et qu'on peut supposer aussi du paléolithique.
Ouais, exactement.
Le faible nombre d'inventions.
Voilà, donc c'est ça qui justifie l'analogie. Voilà. Et le troisième argument, qui est celui qui m'a le plus impressionné, c'est celui de la répartition actuelle des chasseurs-cueilleurs. Il dit on prend tous les peuples de chasseurs-cueilleurs, tous ceux qui restent aujourd'hui vivent dans des lieux où on ne peut pas faire de l'agriculture. Ils vivent dans des déserts, ou ils vivent dans des forêts, où l'agriculture est impossible. Et donc, soit parce qu'ils y sont restés, soit parce qu'ils y ont été réduits. Or, il y a une seule exception, qui est l'Australie, justement. Ces sociétés totémiques, exogamiques, ultra restrictives, où les aborigènes n'ont pas inventé l'agriculture, ils ne l'ont pas adoptée, alors que c'était possible, et qu'ils étaient en contact avec des agriculteurs, en plus. Ils n'en ont rien affiché, ils n'ont pas voulu, ça ne leur a pas plu. Donc c'est pour ça qu'ils jugent que c'est une structure sociale qui s'oppose à l'invention de l'agriculture, qui s'oppose à l'invention technique, et dont on retrouve qui est analogue donc, à celle du paléolithique supérieur.
Et du coup, avec un modèle comme celui-là, le switch, le passage à une... À partir de quand, justement, les évolutions technologiques vont devenir possibles? Qu'est-ce qui les rend possibles?
Alors, ce qui les rend possibles, c'est qu'on sorte de la société type australienne, quoi, et qu'on passe à l'autre société, donc celle des Inuits, des Esquimaux, celle des Sans, donc ces sociétés où les rapports sont plus personnels, où les gens peuvent avoir intérêt parce que ça leur apportera du prestige, parce qu'ils pourront filer un objet technique intéressant au lieu de se mettre au service de quelqu'un, d'inventer quelque chose. Quoi. Enfin, et donc, de passer à l'existence d'objets techniques et de richesses. Enfin, voilà, c'est ça le truc. Mais il n'explique pas le passage. Enfin,
oui, c'est ça.
Il n'a aucun argument pour. Quelle révolution s'est passée entre l'un et l'autre, on
ignore. On ne sait pas. Ouais. On va faire une petite pause musicale et on reviendra pour la troisième et dernière partie de l'émission juste après. Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Donc à tous les ethnologues qui nous écoutent, on vous dit zut. Et puis en particulier un qui envoie des messages à Jean-Mathias. Voilà, parce que je suis sûr qu'ils auront plein d'objections à faire. Ça, on les invitera une prochaine fois pour qu'ils les, puissent les formuler. Et puis, donc vous venez d'entendre Death to Mankind, un morceau qui s'intitule Pierre Boulez. Donc c'était pas Death to Mankind, mais Death to Pierre Boulez. Et donc le Death tout Pierre Boulez. Et donc c'est Pierre-Yves qui va reprendre sa présentation d'avant l'histoire, donc l'évolution des sociétés de Lascaux à Carnac par Alain Testard. Donc alors peut-être que Jean-Mathias, tu...
Non, mais on a des messages de gens qui connaissent pas grand-chose et qui nous disent effectivement le problème de l'évolutionnisme dès lors qu'il est plus linéaire à l'ancienne école, c'est que c'est plus de l'évolutionnisme, c'est du changisme. Trois petits points. Moi je sais même pas si on doit répondre à des remarques comme ça.
Voilà, mais bon. C'est... Oui, voilà. Bon, Martin, tais-toi.
Voilà, oui, je sais pas, pourquoi pas. Enfin, qu'est-ce qui fait que c'est évolutionniste, ce qu'il appelle évolutionniste, c'est seulement justement l'idée qui va quand être capable de décrire une évolution, enfin,
un ordre de succession,
et puis de caractériser. Voilà, ça.
Mais ce que nous disait Martin, c'est que ça change.
Ça change. Et ça change pas n'importe comment, justement.
Et de fait, ce qui l'intéresse, d'après ce que tu disais, c'est pas tellement justement le moment du changement, puisque ça, il fait pas d'hypothèse causale sur le passage d'une situation à l'autre. Donc effectivement, c'est une manière d'ordonner des stades, sociétés du passé.
Et notamment, ce qu'il dit, c'est que si tu vis comme en Australie, tu peux pas inventer l'agriculture, quoi. Et donc, il faut qu'il y ait une autre société qui a existé, enfin, pour que ça ait lieu. Donc là, c'est quand même pas que du changisme, quoi. Enfin, il y a vraiment une loi.
Bon, conclusion à zéro, donc après.
Je sais pas. voilà. Et donc là, on a parlé seulement de ce qu'est l'évolutionnisme, puis de comment c'est passé donc au paléolithique supérieur avec ces trois formes de société. Et ensuite, Testard parle du néolithique, la période suivante, entre moins 10 000 et moins 3 000 comme ça, mais il faut être un peu plus sérieux.
Donc le néolithique, c'est l'âge de la nouvelle pierre.
Ouais, l'âge de la nouvelle pierre.
C'est la pierre taillée.
Alors,
c'est ça exactement. Je suis toujours confus là-dessus.
À l'origine, c'est l'âge de la pierre polie, je crois. Mmh. Mais aujourd'hui, ça désigne l'âge de l'agriculture. Enfin, le mot a perdu son sens, c'est la révolution agricole. Quoi. Enfin,
qui est décrite comme une des très grandes révolutions technologiques qui auraient mis l'humanité sur des rails complètement nouveaux.
Voilà, alors Testard est assez d'accord avec ça, donc je ne vais pas développer ce qu'il dit sur la révolution agricole, mais plutôt parler justement de ce qui lui est associé, de ce qui lui est postérieur, en tout cas de ce qu'il associe au néolithique, soit l'invention des inégalités de richesse et des inégalités politiques, dans le cas européen en tout cas.
Oui, parce qu'on a vu souvent l'idée de justement, comme on est souvent sur un schéma de chasseur-cueilleur égalitaire, on se dit que quand ils deviennent sédentaires, éleveurs et agriculteurs, ils développent des villes et qu'il y a des inégalités qui surgissent, en particulier des inégalités politiques, économiques et autres. Voilà. Alors même si on a vu là que c'était remis en cause parce qu'il y avait des chasseurs-cueilleurs qui étaient sédentaires et qui vivaient dans des sociétés hiérarchisées, qu'est-ce qu'il dit Testard là-dessus? Il dit qu'effectivement, malgré tout, dans la révolution néolithique, on voit une apparition de plus en plus fréquente de sociétés hiérarchisées de façon dure. Ou est-ce que c'est quoi autre chose?
Alors oui, ce qu'il dit, c'est que avec le néolithique arrivent deux choses, la richesse et le pouvoir politique, quoi. Mais ça arrive avant l'État. Avant l'État, quand il dit avant l'histoire, il faut penser aussi avant l'État. C'est-à-dire que malheureusement, les inégalités entre les riches et les pauvres et les inégalités entre les puissants et les faibles existent indépendamment de l'existence de l'État, d'un pouvoir séparé. Quoi, donc c'est pourquoi il parlait, j'en ai parlé tout à l'heure quand on parlait des Indiens de la côte nord-ouest des États-Unis. Donc c'est ces peuples qui n'ont pas d'État. Et pourtant, il y a des gens qui ont suffisamment d'argent pour justement mettre à leur service toute la société, pour dresser, pour faire des petites fêtes, et dresser des
mégalithes à leur honneur.
Des totems à leur honneur. Ou bien, donc les mégalithes, c'est pas le cas des Indiens de la côte ouest, faire des potelages dans lesquels ils se font valoir. Donc la question qui se pose, c'est quand est-ce que la richesse apparaît et à quoi elle sert, quoi. Enfin, voilà. Et ce qu'il dit, c'est que la richesse, elle apparaît pas avec les objets matériels, l'accroissement des objets matériels, elle apparaît parce qu'elle apparaît dans des sociétés qui sont déjà structurées, qui sont celles dont on a parlé avant. Soit des sociétés où il faut rendre service à son beau-père pour avoir une femme, ou bien il faut, on est puni de mort si on a tué quelqu'un. Quoi, voilà. Et la richesse, ça va servir à quoi ? Ben, justement, à payer. À payer pour avoir une femme, ou bien à payer pour ne pas se faire massacrer dans une vendetta. Quoi. Enfin, donc le premier rôle de la richesse, ça va être de payer. Et ce qui fait que on est dans un monde finalement où... ce qui fait que... Comment dire Oui, la richesse intervient plutôt dans un monde qui est pas non plus un monde d'égalité, même si y a pas les structures sociales, elles sont à peu près sans pouvoir et sans richesse. Parce que c'est un monde où tout est négociable et lié à un rapport de force. Voilà. Et donc, est-ce que j'ai plus d'amis de mon côté que de l'autre ? Enfin voilà, oui. C'est des sociétés où la violence
est omniprésente.
Et omniprésente, on dit toujours, les gens disent toujours la violence est endémique. Enfin voilà. Oui.
Endémique, donc pas épidémique comme chez nous.
Voilà. Et donc où on se massacre continuellement, donc avec des inégalités fort faibles. Enfin, celui qui a plus de personnes de son côté, celui qui en a moins, etc. Donc la richesse, elle intervient là-dedans.
Des quoi ? Des formations de clientèle ?
Alors, est-ce qu'il y a des formations de clientèle donc avant la richesse, puisque là je suis avant la richesse, non, parce que pour avoir des clients, il faut justement avoir des richesses, il faut pouvoir utiliser des biens pour les nourrir, quoi. Enfin, donc avoir des stocks de biens.
C'est-à-dire qu'il y a une richesse qui va se former avant l'État, et donc il y a des clientèles aussi qui vont se former avant l'État, par exemple.
Ouais, richesse, clientèle, donc... beaucoup d'esclaves, parce que quand tu as de l'argent, ça permet d'acheter des hommes qui vont... Donc pas seulement être à ton, enfin qui vont être des biens. Donc autres implications sociales, donc l'inégalité riche pauvre, quoi. Enfin, parce que si la richesse c'est une libération pour toi, parce que tu vas pouvoir obtenir une femme sans te fatiguer, ça va pas être une libération pour le voisin qui lui n'a pas cette richesse et qui donc va rien pouvoir obtenir, enfin ou va devoir se débrouiller autrement, quoi. Enfin, donc oppression factuelle des pauvres, quoi. Donc le pouvoir économique de payer des hommes, tu disais, enfin d'avoir des clients, et puis le pouvoir politique qui est lié, parce que enfin il y a une puissance qui vient de toi. Donc ça c'est les conséquences de la richesse, quoi. Enfin, qui l'indique, qui sont des conséquences, je crois, assez simple à penser. Voilà, et qui donc selon lui caractérise donc le début du néolithique. Et donc ce qu'il dit, c'est que le néolithique, ça commence par être des plutocraties ostentatoires. Donc plutocratie, c'est les riches qui ont le pouvoir, et ostentatoire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de leur richesse ? Il n'y a rien, donc ils vont faire des mégalithes, et donc là c'est Carnac, quoi. Enfin, pourquoi ? Parce qu'il y a eu un mort, ou pour commémorer tel fait, ou parce que quelque chose lui arrive, quoi. Voilà, hop, on fait un mégalithe. Quoi. Et l'autre fait archéologique qui confirme ce qu'il raconte, c'est le fait qu'on a trouvé, semble-t-il, des esclaves exécutés au moment de la mort d'un maître, quoi. Enfin, des esclaves. Ce qui signifie que des gens possédaient des esclaves en grand nombre. Donc voilà pour ce qui nous apprend de la richesse avant l'État. Richesse qui finalement permet de décrire, enfin, donne un tableau assez peu
reluisant.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est en même temps, c'est aussi l'intérêt du dispositif, moi je trouve, c'est que si tu sors d'une espèce d'approche évolutionniste, progressiste, classique ou ancienne école, là, comme on nous l'envoie sur les réseaux sociaux, si tu sors de ça, évidemment, tu déconstruis aussi toute l'idée de primitivisme, que ce soit pour prendre les sociétés antérieures pour moins évoluer et donc dépasser, ou que ce soit pour un retour nostalgique. Ça c'est intéressant, parce que c'est aussi une manière de faire qui est...
Bon, tu penses à Jean-Louis Hamsel
Je pense à Hamsel, mais je pense aussi à d'autres approches dans l'anthropologie anarchiste, y compris, tu vas chercher des gens comme Clastres ou des gens comme ça, qui parfois sont un peu susceptibles de donner un peu, pas dans cette nostalgie-là, mais bon, la société contre l'État, on essaie de construire, de remonter sur des sociétés dans lesquelles effectivement on aura un modèle de société sans classe, sans inégalité. Il me semble que là on est assez vacciné contre ce type de nostalgie là. C'est que le primitivisme ne fonctionne ni comme repoussoir ni comme effectivement origine perdue, quoi, qu'il faudrait retrouver. Le problème politique, il se pose voilà, depuis un bon bout de temps.
Oui, c'est ça. On est déjà entré dans la politique avec la richesse. Mais justement, c'est là, c'est bien que tu parles de classe, quoi. Donc justement, lui qui disait, enfin voilà, il y a pas de, on a des sociétés sans chef, c'est des chefs sans pouvoir, quoi. Voilà, Testard dit ouais, c'est des chefs sans pouvoir. Mais n'empêche que parmi ces chefs sans pouvoir, il y en a qui ont une quantité de richesse qui est telle qu'ils ont beau ne pas.
Ouais. C'est un problème qu'abordait Clastre à la fin de son ouvrage La société contre l'État, où il disait qu'est-ce qui justifie, comment est-ce qu'on est passé finalement des sociétés sans État, où l'État semblait impossible, à des sociétés avec État. Et il élaborait plusieurs pistes, du type la démographie, la formation d'un pouvoir charismatique, parce que le chef était souvent charismatique, avait des pouvoirs étendus pendant la guerre. Donc on pouvait se dire, bah, s'il a beaucoup de charisme, il peut peut-être mener les gens à la guerre, et puis par là, il va conquérir un peu plus de pouvoir, etc. etc. Donc peut-être que finalement, alors je ne sais pas, effectivement, il y a toujours un petit côté, comment dire, rousseauiste, bon sauvage chez Clastre, même s'il accepte l'idée d'une violence endémique, par exemple. Après, je sais pas, peut-être que ça peut se conjuguer aussi, parce que peut-être que là, Alain Testard nous donne, alors, je sais pas du tout, hein, je lance à la volée, peut-être que Testard nous donne deux, trois moyens de penser le passage des sociétés sans État ou sociétés avec État.
Alors, il s'arrête justement avant l'État, c'est-à-dire avant, donc, les... mais je sens ce qui... Oui, par contre, il donne le moyen de penser ce passage, en ce qu'il montre comment se mettent en place tout un tas de structures de pouvoir qui sont pas étatiques et qui effectivement seront là. Donc lui aussi, il juge qu'il y a un État, enfin donc un peu édénique qui va être rompu par l'État, mais c'est ce qu'il appelle mais cet État est pas originel pour lui. Il dit ouais, il y a des démocraties primitives, c'est le cas des Iroquois, c'est le cas des Germains en Europe. Mais il y aura des coups d'État contre ça qui feront naître l'État. Enfin voilà. Mais ces démocraties sont pas la première forme qu'on trouve, parce que elles viennent s'opposer justement à ces plutocraties ostentatoires dans lesquelles il y avait déjà de la richesse. Donc voilà comment il dresse son schéma. Enfin, donc des systèmes où il n'y a pas de pouvoir politique institué, et donc c'est les riches qui dirigent, voilà, qui sont les chefs. Ensuite, des systèmes où justement il y a des conseils souverains qui se mettent en place, mais qui n'ont pas de pouvoir prescriptif. Donc il faut aller à la guerre, mais si tu veux pas y aller, je peux rien faire contre toi.
Voilà. Bah, c'est ce que disait Clastre. Voilà. Il y a qu'un moment, il y a eu le chef indien qui était parti. En guerre, il était parti avec trois types, parce que plus ils en avaient tous ras-le-bol.
Oui, c'est pas Cochise, un chef très célèbre.
Oui, c'est ça, ou Géronimo. Ce qui fait que les ambitieux étaient entre guillemets naturellement éliminés par leur soif de pouvoir.
Et sur les réseaux sociaux, là, on m'indique quand même que plus on est là. On m'a dit quand même que, pour corriger ma intervention tout à l'heure, qu'effectivement, que Clastre insiste surtout sur le fait que c'est pas des sociétés sans État qui seraient privées de quelque chose, mais c'est des sociétés qui sont activement contre l'État. Donc effectivement, c'est une nuance importante.
Sont organisées pour empêcher l'apparition d'un pouvoir. Donc elles donnent une place, relativement glorieuse, mais accessoire, aux ambitieux, qui dépensent toute leur énergie à rincer leur tribu, à faire des discours que personne n'écoute.
Et d'un point de vue anarchiste, ça change pas forcément grand-chose, dans la mesure où, d'après Clastre, c'est quand même effectivement une manière de montrer qu'on peut penser une vie sociale sans État. La question reste entière de savoir si c'est souhaitable et si ça règle les problèmes concrets que tu évoquais tout à l'heure, en termes d'inégalité.
Là, justement, ce qu'il dit, c'est que ce que dit Testard, c'est qu'une vie sociale sans État, on peut en penser, on en voit, quoi. Enfin, voilà, mais il y a plusieurs formes, quoi. Enfin, voilà, et on a des sociétés justement démocratiques avec des assemblées souveraines. Enfin, on peut justement, enfin, mettre fin au pouvoir des riches, en tout cas limiter, enfin, pendant un certain temps, quoi. Enfin, et donc c'est la deuxième forme de pouvoir politique qu'il voit, donc après les plutocraties ostentatoires, les démocraties primitives. Et puis les dernières, donc qu'il appelle des organisations linéagières, donc qu'on trouve notamment en Afrique. Mais vu qu'il se concentre sur l'Europe dans la fin de son bouquin, enfin il en il n'en parle pas particulièrement.
Jean-Mathias,
oui, dernière remarque. Dernière remarque, on évoquait tout à l'heure effectivement les travaux de Clastres. Ce qui pourrait être intéressant aussi de voir, c'est dans quelle mesure, beaucoup plus récemment, quelqu'un comme Graeber, qu'on a pas mal commenté ici, peut éventuellement tomber sous le type de critique. Alors, il faut y aller avec des pincettes, mais effectivement, il a travaillé notamment sur les Iroquois et sur la démocratie iroquoise. Ça, effectivement, c'est des thèmes qu'il aborde. Mais c'est vrai que la question se pose quand même. C'est-à-dire qu'effectivement, Graeber propose, dans son travail sur la dette notamment, propose une espèce de jeunesse de l'État, qui est évolutionniste aussi en un certain sens. Et il a l'air effectivement d'insister quand même de manière assez valorisante la plupart du temps sur les étapes ou les stades dans lesquels effectivement la dette interpersonnelle était plutôt la règle et la norme des relations humaines, comme si effectivement politiquement il y avait quelque chose à retrouver de ce côté-là avant la phase à la fois monétaire et étatique qui caractérise les sociétés modernes via les conquêtes impériales d'après Graeber. Ça serait effectivement une question qu'on peut se poser. Est-ce que une société dans laquelle on a des rapports qui sont réglés par des dettes interpersonnelles est plus égalitaire et politiquement plus enviable
parce que justement il prend des exemples de l'esclavage en particulier Graeber dit que dans les sociétés primitives qu'il a pu étudier ou que d'autres ont pu étudier, il dit que la plupart du temps on peut au mieux les qualifier de sociétés anarchistes imparfaites, parce que dans la plupart des cas on observe des effets de domination, soit des vieux sur les jeunes, soit des hommes sur les femmes, qui sont parfois extrêmement violentes. Donc c'est vrai que parfois on a l'impression qu'il part, il se laisse un peu aller et il part dans une espèce de trip un petit peu nostalgique, genre c'était mieux quand j'allais voir mon voisin et que je disais qu'il avait un beau cochon pour lui faire comprendre qu'il devait me le donner, histoire qu'ensuite il vienne chez moi et qu'il me dise que j'avais de belles assiettes, histoire que faire comprendre que je devais lui donner en échange du cochon. Donc parfois on a l'impression qu'effectivement il regrette un petit peu, enfin, il dit qu'il y avait quelque chose là-dedans. En même temps, sur le côté c'était mieux avant, malgré tout, il est très il est quand même assez prudent dans pas mal de ses écrits, parce qu'il sait qu'il y a eu des tas de sociétés vraiment bien dégueulasses qui ont existé avant l'État, avant le capital.
Et ce qu'il rapprocherait plutôt, alors là pour le coup l'aspect où il se rapproche plutôt de Testard, c'est la manière dont il s'attaque lui aussi à une forme d'évolutionnisme, alors là pour le coup consacré dans l'anthropologie libérale au fond, donc il est aussi d'une certaine manière dans une espèce de critique de cet évolutionnisme là qui est encore assez largement en histoire largement en histoire économique. Donc de ce point de vue-là, effectivement, il est plutôt proche du genre de démarche qui est proposée par Testard. Enfin, c'est des pistes comme ça, mais...
Le mot de la fin, Pierre-Yves ?
Que tout ça, c'est des faits historiques passés, que ça, on peut y trouver des modèles enviables, restreints, quoi, mais que de toute façon, ça ne définit pas les règles de ce qu'il faut faire aujourd'hui. Quoi. Enfin, je crois que ça montre juste qu'on ne peut pas justement retrouver un passé perdu, je crois. Enfin, ce serait que la politique que j'en tirerais.
Capri, c'est fini. Donc on se retrouve. et Jean-Mathias a honte.
Est-ce qu'on peut vraiment conclure comme ça ? Moi, je ne sais pas.
Donc on se retrouve peut-être dans 2 semaines et puis on verra pourquoi et après. Au revoir.
Modern man is not for me. The movie star and Dapper Dan. Give me the healthy Joe from ages ago, a prehistoric man. What has Gable got for me, or Mrs. Johnson's blonde boy Van? I want a happy ape with no English drape, a prehistoric man. Top hats, bow ties, he simply wore no ties. Bare skin, he just sat around in nothing but bare skin. I really love bear skin. Some guys care a lot for me, but my excitement they can't ban. Because I still await my primitive mate. We've had a date since the world began. My prehistoric man. No psychoanalysis. He never knew what made him tick. He never paid, it seems, for telling his dreams. Poor prehistoric dick. Jitters! He never had jitters. No repression. He just believed in free self-expression. I love self-expression.
He had honest calluses. He never worked to pile up dough. So unlike you and me, no ulcers had he. Simple and free in the long ago. For prehistoric
Hum-diddy-hum-diddy-hum-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-diddy-